Voilà, on continue tout doucement, encore un petit aspect sur le pardon. Alors, vous avez lu Philémon dans les groupes de prière, chapitre 1, qui est une jolie. C'est une épître de Paul. Hein? Ce n'est pas l'épître de Paul aux Romains. Hein? Ça n'a pas la technicité, la doctrine, c'est pas de la doctrine sur la justification par la foi. C'est pas ces choses lourdes, on pourrait dire, mais c'est une lettre écrite à quelqu'un pour l'encourager. Et on pourrait dire pour l'encourager aussi au pardon. Hein. Et donc c'est tout à propos de lire cela. On a considéré différentes choses hein, les fois passées, notamment les responsabilités qui sont les nôtres, que Dieu nous donne hein, lorsque nous sommes offensés ou même lorsque nous avons offensé quelqu'un et que nous en sommes conscients d'entamer tout ce qu'il faut pour le pardon dans la situation. Ne pas vivre en conflit ouvert. Et ce soir, nous voulons considérer un aspect peut-être du pardon qui est la réconciliation. Parfois, on peut confondre les deux. Alors moi, je vous pose la question, est-ce qu'il y a une différence entre le pardon et la réconciliation? Est-ce que pour vous, est-ce que vous comprenez ça comme une seule et même chose? Peut-on pardonner sans qu'il y ait réconciliation? Ou peut-on être réconcilié sans qu'il y ait eu pardon? Hein, donc, comment est-ce que vous considérez cela? Est-ce qu'il y a une différence déjà? Et si vous dites oui, la question d'après, c'est laquelle? L'une ne va pas sans l'autre. Alors, oui, peut-être. Peut-être c'est bien d'essayer de définir, peut-être pouvoir savoir s'il y a une différence, c'est de définir les deux choses. Hein, est-ce que vous vous rappelez comment on avait défini le pardon? On avait dit des choses concernant le pardon. Si vous avez pris des notes, si on n'a pas pris de notes, on ne se rappelle pas. Hein? On avait dit que il y a plusieurs mots parfois qui sont traduits hein, pour le pardon. On avait vu plusieurs, hein, trois grands concepts dans l'Ancien Testament, je crois, on avait vu. Et puis dans le Nouveau Testament, la plupart du temps, c'est un mot qui veut dire laisser aller, délier. Hein. Un peu, on avait vu dans l'histoire que Jésus raconte vous rêvez, de cet homme à qui un roi avait remis sa dette et puis qui lui-même n'avait pas remis. D'accord? Et la Bible dit que le roi le laissa aller, quoi. C'est un peu le sens. Hein. Il remet la dette, il laisse aller. Il est délié, déchargé de quelque chose. Pour la réconciliation, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour la réconciliation? Le mot qui est traduit souvent par réconciliation, c'est un mot dans lequel qui a le sens d'échange, d'échanger quelque chose. D'accord? Alors probablement, certains disent, comme les changeurs de monnaie, ils échangeaient des choses. Donc c'est quelque part. Probablement une situation dans laquelle on entretient, on pourrait dire, un peu un échange avec l'autre, qui n'est pas tout à fait la même chose que le pardon. Donc on pourrait dire ceci, peut-être pour essayer de bien comprendre la chose, que le pardon concerne peut-être le traitement d'une offense. Quand on parle de pardon, on est surtout sur l'offense, le mal qui a été fait, et la reconnaissance de la faute commise, d'accord, la repentance par rapport à la faute commise, la dette qui est enlevée, etc. Il y a cette notion-là. Pour la réconciliation, il y a quelque chose qui est quand même différent. En fait, pour bien comprendre, quand on pêche, hein, la Bible dit quand on pêche, cela conduit une rupture de quoi? De communion ou de relation avec Dieu. Et cette rupture de communion, de relation, entraîne ce qu'on appelle une inimitié. L'apôtre Paul le dit beaucoup, hein, il y a une inimitié entre Dieu et nous, qui s'installe entre l'homme et Dieu, une animosité, on pourrait dire un mot comme ça. Hein. Par exemple, Éphésiens, regardez Éphésiens chapitre 2, verset 14. Hein, Éphésiens chapitre 2, verset 14. Éphésiens 2, verset 14. Dans la doctrine du salut même, donc, que Paul développe ici, il dit « Il est notre paix, en parlant de Jésus-Christ, lui qui des deux n'en a fait qu'un et a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Hein? » Cette espèce de haine qui existe à cause du péché, de mur qui existe à cause du péché, il dit « L'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi, les ordonnances, les préceptes et, dans ses prescriptions. » Et puis, plus loin, il dit qu'il a détruit, fin du verset 16, aussi l'inimitié. La Bible dit que celui qui se fait ami du monde, il est ennemi de Dieu. Il parle aussi dans un sens d'inimitié entre celui qui est attaché au monde et Dieu, dans ce sens-là. Donc, on pourrait dire, donc le péché instaure cette rupture de communion, de relation, et il y a une inimitié qui s'installe. On peut dire que quand on commet une offense contre quelqu'un, ou contre nous, contre deux personnes, cela conduit aussi à une relation détériorée, une inimitié, on pourrait dire ainsi aussi. Par exemple, la Bible dit que Ésaü a conçu de la haine contre Jacob, dans Genèse 27, lorsque Jacob a trompé, etc., et puis qu'il a reçu la bénédiction de son père et pas lui, il a nourri une espèce de haine à son égard. La relation était rompue. Hein, et même plus tard, lorsque Jacob revenait, il avait extrêmement peur encore de son frère parce qu'il sait que la relation n'était pas du tout bonne. Donc les deux personnes deviennent parfois des ennemis. Et des fois, on voit des gens qui étaient des amis à cause d'une relation, à cause d'offenses, se séparer et devenir des ennemis. Hein, des ennemis. Voilà, c'est ce que crée, on pourrait dire, l'offense ici. Donc, on peut considérer qu'il y a deux choses. Hein. D'une part, il y a l'offense elle-même qui constitue un litige entre deux personnes, entre l'offenseur et l'offensé. Et puis, on peut considérer qu'il y a le dégât relationnel qui est créé par l'offense. Même. Il y a le fait d'avoir volé quelque chose, qui est l'offense, par exemple. Et puis, il y a la détérioration de la relation qui est entraînée par l'acte lui-même. Et le pardon, on pourrait dire, vient agir sur cet acte que l'on ne tient pas plus en compte contre cette personne, qu'on le décharge de cela. C'est comme si elle ne l'avait pas fait, mais elle l'a fait, mais comme si elle ne l'avait pas fait, on ne lui tient plus rigueur de cela. Et la réconciliation, elle vient jouer sur traiter la relation qui a été détériorée. Et c'est pour ça que, par exemple, si vous lisez, concernant même le salut, si vous regardez ce qui est dit dans le pardon que Dieu accorde aux pécheurs. Alors, je lis ici en Éphésiens 2, 14, verset, je relis, hein, « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. » Il a ôté l'inimitié. Okay, et il dit « Ayant anéanti par sa chair la loi et les ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux, juifs et grecs, un seul homme nouveau en établissant la paix. » C'est quelque chose qui joue sur une relation, là encore. Et comment il le fait ? Il est réconcilié avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Donc il dit que, voilà, il réconcilie ici en détruisant ce qui constitue la difficulté relationnelle, hein, la haine, l'inimitié qui existe. Dieu est offensé par le péché. Le pécheur est l'offenseur. Et, Et Dieu garde une inimitié à cause de cela. Et lui-même, il l'ôte par le sacrifice de Jésus-Christ. Et il ne fait pas que ôter le péché, mais il ôte le péché de manière à avoir une relation rétablie, de manière à se réconcilier. C'est pour ça que l'apôtre Paul parle, il parle du pardon et de la réconciliation aussi. Regardez 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. 2 Corinthiens chapitre 5 et au verset 19. De Corinthiens 5, il dit ici, car Dieu était en Christ. Alors, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même. Il n'est pas juste qu'il nous a pardonner nos péchés, qui ne compte plus nos péchés. Ça, c'est une chose, c'est un aspect. Mais il dit qu'il y a un autre aspect à ce pardon-là, c'est qu'il nous a réconciliés avec lui-même. On est dans le relationnel, quelque part ici, dans une communion ici, qui est établie. Il nous a réconciliés avec, alors je reprends le verset 18, avec lui-même par Christ, et nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Ne pas imputer, on avait dit ça, ne pas imputer, ne pas les compter, c'est pardonner. Donc en pardonnant, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en Christ en train de réconcilier, de rétablir cette communion qui a été rompue dans le jardin d'Éden à cause du péché. Donc, réconciliant le monde, j'ai perdu mon verset maintenant là, verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20, nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Mais pour être réconcilié avec Dieu, il faut demander le pardon de Dieu. Il faut être pardonné par Dieu. Donc, c'est deux choses qui sont associées. Mais on pourrait dire ici, en considérant ce passage, que le pardon, en fait, conduit à la réconciliation. Le pardon a pour but, vise la réconciliation. Dieu ne nous a pas sauvés pour dire, voilà, je vous sauve, je vous mets là, comme quelqu'un que l'on sauve de l'eau et puis après on le laisse et puis il se débrouille tout seul. Ok, vous n'êtes plus sous la condamnation. Il n'y a pas que ça. Il y a le fait qu'il rétablit cette communion dans laquelle on entre dans une intimité avec lui. On est réconcilié. Il n'y a plus rien qui crée un obstacle au fait qu'on ait des échanges. On a dit que le sens du mot, il y a le côté échange. Donc, je le prie, me parle, etc. D'accord ? Alors, quand quelqu'un dit, bon, moi, je l'ai pardonné, mais je ne vais pas entendre parler. Je ne vais plus lui parler. C'est-à-dire qu'on a, oui, peut-être qu'on a dit, voilà, je ne lui tiens plus, je compte plus ce qu'il a fait, mais quand même, quelque part, on le compte suffisamment pour ne pas vouloir avoir de relation avec lui. D'accord ? Donc, on peut dire qu'on a pardonné dans un certain sens, mais on ne se réconcilie pas avec la personne. Mais quand on regarde dans l'Écriture, on voit que, surtout, on parle surtout entre frères, hein, entre frères et sœurs, hein, entre croyants, on voit que le pardon que Dieu nous donne conduit à la réconciliation avec lui. Et on va voir que le pardon que Dieu exige pour nous a pour but aussi de conduire à la réconciliation l'un avec l'autre. Ce n'est pas juste dire, bon, okay, j'oublie ça, je lui en tiens plus rigueur, mais qu'il ne me parle plus. Hein. Voilà. Parce que parfois, on fait comme ça, qu'il ne me parle plus. Okay. On est bien, il est de son côté, de mon côté, je ne m'assois pas à côté de lui, il s'assoit à gauche, je m'assois à droite, etc. Je ne le croise pas, il sort par là, je sors par là. Mais je n'ai rien contre lui. C'est bon, c'est fini, j'ai pardonné, je ne reviens plus sur ça. Ce n'est pas comme ça vraiment que Dieu veut que l'on pardonne. Certes, il faut ne pas tenir... avoir cette disposition, on ne tient pas compte de la faute commise, d'accord ? Mais le but de cela, c'est d'arriver à la réconciliation. Le vrai pardon conduit à la réconciliation, ou au moins il vise, hein, il doit viser à la réconciliation. Alors on peut voir des exemples de cela. Par exemple, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 2, regardez 2 Corinthiens 2, versets 1 à 8, l'apôtre Paul a eu, on pense, ici quand on lit cela, qu'il a connu une offense avec l'église de Corinthe. Ils ont dit des choses, peut-être une injure contre sa personne, ou ils ont dit des choses le concernant. Et il a écrit à cette église une lettre, on le voit quand lisant 2 Corinthiens, une lettre qui n'est pas 2 Corinthiens, et qui n'est pas non plus 1 Corinthien, hein, qui est une lettre que nous n'avons pas. Il parle de cette lettre, de ce qu'il demande de faire, et il demande à l'église de faire des choses, de discipliner la personne qui a eu cette attitude, qui n'était pas du tout comme elle devait être. Et puis de la discipliner. Et ce que l'Église a fait. Okay. Mais la difficulté la chose qui s'est produite très, très rapidement, c'est que l'Église est allée peut-être, je ne sais pas si on peut dire qu'elle a fait excès de zèle, mais elle a effectivement discipliné cette personne, mais elle a continué à le faire alors que cette personne s'est repentie. A reconnu sa faute, etc., continue à maintenir quelque part une sorte de discipline. L'apôtre Paul leur écrit en disant ceci, 2 Corinthiens chapitre 2, et on peut dire à partir du verset 1, il dit « Je résolus donc moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse, car je vous attriste, qui peut me réjouir, sinon celui qui est attristé par moi. J'ai écrit comme j'avais... J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie, ayant en vous cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. » Il dit « C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé, avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé. Et c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. » Donc il parle de cet homme qui a été l'offenseur. Et on pense que l'offensé ici, c'était lui, l'apôtre Paul. Il dit, verset 7, « En sorte que vous devez bien plutôt pardonner et le consolé, de peur qu'il ne soit accablé d'une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Voilà, donc on pourrait dire ici, il dit, oui, il fallait discipliner cet homme, oui, vous l'avez fait, mais maintenant, le but, ce n'est pas simplement de le discipliner, le but, c'est de le ramener, c'est de la restauration. Donc il faut lui pardonner maintenant. Il s'est repenti, qu'il a changé, qu'il a reconnu. Il faut le pardonner, et il ajoute, et le, quoi ? Consoler. Donc, on tombe, la consolation, on est dans la relation, on est dans la réconciliation. Il dit non seulement il faut pardonner, mais il faut aller jusqu'à le consoler, l'entourer. Quand on console quelqu'un, on entoure la personne de notre affection, de notre amour. Ce n'est pas juste, ok, vous avez pardonné, vous ne retenez plus la faute, mais vous allez jusqu'à être avec lui, être à côté de lui et le consoler, parce qu'il a, dans cette situation où il a été repris, il a éprouvé une tristesse aussi. Hein. Ça a engendré de la tristesse chez lui. Vous ne devez pas faire en sorte que cette tristesse demeure et qu'elle soit excessive au point où il sera découragé dans sa marche avec Christ. Il s'est repenti, donc vous devez maintenant lui pardonner et le consoler. Chercher une réconciliation avec lui, de le réintégrer comme il faut afin qu'il jouisse de l'affection et de l'amour, de la communauté. Ça, c'est une manière où il dit les choses. Regardez dans Philippiens 4. Philippiens 4, rapidement, Philippiens 4, Philippiens chapitre 4. Vous vous souvenez de cet exemple de deux femmes, comment s'appelait-elle? Évodie et Saint-Tiche. Qui c'est qui s'appelle Évodie ici? Personne. Qui c'est qui s'appelle Saint-Tiche? Personne. Les gens n'ont pas voulu donner ses prénoms, je ne sais pas pourquoi. Évodie et Saint-Tiche, Philippiens chapitre 4. Et au verset 2, l'apôtre Paul dit « J'exhorte Évodie et Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèles collègues, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et avec d'autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont écrits dans le livre de vie. » Donc, il dit ici, je les exhorte, l'une et l'autre, à être de même sentiment. Alors, on peut dire qu'il y a un conflit ouvert entre ces deux sœurs. Et l'apôtre Paul, il intervient de là où il est très rapidement pour que ce conflit ne crée pas une division dans l'Église. Et on voit qu'il a écrit au chapitre 2, plutôt hein, qu'il appelle à être d'un même sentiment, d'une même pensée, etc. Hein, d'avoir cet esprit d'unité. Et il dit ce que, à quoi il les exhorte, c'est quoi? C'est être d'un même sentiment. Il ne dit pas juste pardonnez-vous l'un l'autre, mais il dit ayez un même sentiment. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire ici? Est-ce que ça veut dire qu'ils doivent aimer les mêmes choses? Je crois pas. Hein. Est-ce que ça veut dire qu'ils doivent avoir aimé les mêmes légumes, que le bleu soit leur couleur préférée tous les deux, la même identique en tout point? Absolument pas. Mais il veut certainement dire que dans le Seigneur, il faut être animé de bons sentiments l'un envers l'autre, de sentiments spirituels, bons sentiments, hein, compatissants, vous supportant l'un l'autre, vous pardonnant. Il faut être animé de ces sentiments-là l'un envers l'autre. Ce qui implique plus que simplement le pardon, mais aussi une réconciliation, une relation qui est retrouvée. Comment on peut avoir de bons sentiments avec quelqu'un qui n'a pas du tout de relation? Voilà. On peut dire, oui, j'ai des bons sentiments envers lui. Elle dit, j'ai des bons sentiments envers elle, mais ils ne se parlent jamais. Le fait de ne pas se parler, c'est qu'on n'a pas de bons sentiments. Hein. Si je dis avec mon épouse, oui, j'ai des bons sentiments envers toi. Elle dit, pourquoi tu ne me parles pas? Ça fait une semaine. Tu vois? Ils sont où les sentiments, les bons sentiments? Ça paraît logique. Hein. Donc, quand il dit les mêmes bons sentiments, les mêmes sentiments dans le Seigneur, c'est qu'il y a quelque chose qui implique aussi un échange, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est un exemple encore où on voit Paul parle dans un conflit qui doit être réglé et comment il propose la résolution de ce conflit. C'est quelque chose qui va du pardon jusqu'à le fait de retrouver une relation. Et puis, vous avez lu aussi l'exemple de Philémon. Hein. On ne va pas revenir en détail sur cet exemple. En parlant de bons sentiments aussi, j'avais noté dans 1 Corinthiens, vous savez, l'apôtre Paul parle de division qu'il y avait dans l'Église, et pour régler le problème des divisions, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul, ça avait mis des factions dans l'Église, etc. Et il dit ceci, il dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous ce même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et un même sentiment. D'accord ? Les uns envers les autres. Et le sentiment, c'est quelque chose qui, bon, bien sûr, qui est dans ce que je pense des autres, mais dans ce que je dis aussi aux autres, dans la manière avec laquelle je me comporte aussi avec les autres. Donc, je reviens donc à Philémon. Dans Philémon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'apôtre Paul exerce une pression sur Philémon afin qu'il pardonne. Alors, le pardon, c'est jamais prononcé dans Philémon. Je ne sais pas si vous avez fait attention, on a lu tout le chapitre, hein, c'est très, très vite lu. Il ne parle pas de pardon, il ne dit pas « pardonne-lui ». Il ne dit pas ça. Mais on peut supposer qu'il dit qu'il aurait voulu garder Onésime avec lui. Onésime, c'était un esclave qui s'était enfui. Et on pense qu'il avait peut-être, certains pensent qu'il avait peut-être volé, en volant des choses à son maître Philémon. Donc Philémon, qui est chrétien, qui a une maison dans laquelle l'Église se réunit aussi, hein, parce qu'on le voit à la fin de l'Épître, il dit l'Église qui est dans ta maison. Et cet homme s'est enfui, il a rencontré à Rome l'apôtre Paul, peut-être en prison, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, il se convertit sous le ministère de Paul, et puis Paul voudrait bien le garder parce qu'il lui rend des services, peut faire des choses pour lui. Mais il le renvoie vers Philémon. Et on peut penser très bien que Paul renvoie Onésime vers Philémon, qu'Onésime fasse quoi? Pour? Oui, mais avant qu'il, on pourrait dire qu'il reconnaisse ce qu'il a fait, qu'il demande, oui, qu'il demande pardon. D'accord? Et ce n'était pas facile pour Onésime de revenir, certainement. Il aurait préféré rester à côté de Paul plutôt que d'affronter ce qu'il a fait. Et il le fait, et ça là montre qu'il avait probablement ce désir de venir, de dire oui, je reconnais que j'ai mal agi, et demander pardon. Et puis il a peut-être dit, j'ai déjà demandé pardon à Dieu, mais il faut que je te demande pardon pour ce que j'ai fait, et qu'il le reconnaisse. Et ce n'était pas facile pour lui de le faire. Mais ce n'était probablement pas facile non plus pour Philémon de voir revenir cet homme, et puis de devoir lui-même aussi lui pardonner en disant, je te pardonne, c'est son esclave. J'ai lu des commentaires qui disaient que quand des choses comme ça se passaient, le sort de l'esclave était d'être marqué au fer rouge. Donc, Onésime qui revient, c'est pas facile de revenir. Et c'est pas facile non plus pour Philémon, peut-être, de pas faire ce qu'on fait dans de tels cas. On était formatés de cette manière-là. Et Paul lui écrit avec une tendresse, parce que vous avez lu cette lettre, elle est extrêmement tendre, cette lettre, mais c'est extrêmement pressant. Il lui dit, je te le renvoie pour que tu le reçoives. Il dit, reçois-le. Et il dit à Philémon, tu te dois à moi. Il dit, je ne veux pas le faire sans te demander pour que ton bienfait ne soit pas forcé. Mais il lui dit quand même, reçois-le. Il lui dit après, mais je vais venir bientôt, prépare-moi un logement. Donc il va voir ce qui a été fait, comment il l'a fait. Et quelqu'un faisait remarquer, et à la fin, il cite beaucoup de personnes, il dit, les frères qui sont avec moi vous saluent. Et n'oubliez pas que la lettre est aussi adressée à l'église qui est dans sa maison. Hein? C'est ce qu'on apprend dans la lettre. Donc, l'église va lire la lettre. Il dit, les frères qui sont avec moi ont lu ce que j'ai écrit. Et quels sont ces frères-là? Eh bien, il dit, tous vous saluent. Attends, j'ai perdu, voir ce qu'il dit. Non, je suis dans Philippiens, je ne vais pas jamais le trouver là. Hein. Je me dis, c'est bizarre, il n'y a pas les noms à la fin, c'est Philippiens. Philémon, il dit, Epaphras, 23, Epaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue. Ainsi que Marc. Marc, c'est qui, Marc? Jean-Marc. Vous vous rappelez de Jean-Marc? On avait étudié Jean-Marc. Quelle était la difficulté avec Jean-Marc? L'apôtre Paul avait refusé de prendre Jean-Marc lors de son deuxième voyage missionnaire parce que Jean-Marc n'avait pas été fiable dans le premier voyage. Et ça avait été une telle cause d'échange entre Barnabas qui voulait garder Jean-Marc, parce que Jean-Marc c'est son cousin, et Paul qui ne voulait pas le garder, que Barnabas et Paul se sont séparés. Séparés. Et là, on retrouve, et certainement, Jean-Marc a été vexé par cette situation. Il a peut-être été offensé même de ne pas avoir été jugé digne par Paul de faire cela. Je ne sais pas, on est des hommes, on peut penser comme. Et là, maintenant, il se retrouve avec l'apôtre Paul. Plus tard, l'apôtre Paul dira à Timothée, envoie Jean-Marc parce qu'il m'est utile pour le ministère. Et donc, quelque part, c'est un témoignage, ici même, du propre pardon qu'ils se sont, on pourrait dire, accordés eux-mêmes, hein, parce qu'ils sont maintenant en accord, ils travaillent en accord, il dit même qu'il te salue. Et certainement Philémon, on pense que Philémon était aussi au courant de cette histoire. Et donc, entendre Marc cité par Paul, c'est une preuve qu'il y a une réconciliation, laquelle réconciliation lui est demandée par Paul entre lui et Onésime. Et même si on voit dans cette lettre que le pardon n'est pas nommé, on comprend vraiment que Paul demande à Philémon d'exercer le pardon envers Onésime, mais plus que cela, d'avoir une réconciliation dans laquelle il va le considérer même non plus comme un esclave, mais comme un frère. C'est pas je te pardonne, mais je te remets à la tâche et puis c'est fini, je ne vais plus entendre parler de toi. Non, mais maintenant ce sera un frère avec lequel il aura une relation, une réconciliation. Alors, on peut dire ici, quand on regarde Paul, hein, non seulement on doit rechercher la réconciliation, mais quand nous avons la possibilité, on doit être nous-mêmes des artisans de la réconciliation, parce qu'on a le ministère, on l'a lu dans Éphésiens, dans 2 Corinthiens, le ministère de la réconciliation. C'est sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan relationnel, je crois que on doit être des artisans de paix, comme Paul l'a été ici. Il le fait avec l'église de Corinthe, il le fait avec Saint-Tiche et Évodie à l'église de Philippe, il le fait ici avec Philémon, entre la relation en Philémon et Onésime, où il cherche comment la paix peut être rétablie parmi là où il y a eu offense. Pardon et rétablissement de la paix, c'est-à-dire un pardon qui va jusqu'à la réconciliation. Alors, je voudrais terminer avec ça. La réconciliation est vraiment importante quand on parle du processus du pardon. On doit toujours viser la réconciliation. Et pas simplement le fait de dire, par la grâce de Dieu, j'ai eu la force d'oublier cela, je lui ai pardonné, etc. Non, on doit toujours viser. Alors, ce n'est pas toujours facile. D'accord ? Parfois, c'est plus facile selon l'offense qui a été commise auparavant. Mais parfois, il y a des offenses qui sont tellement lourdes que rétablir une communication, même rétablir une communion, ça peut prendre plus de temps. Mais le pardon entre frères doit viser quand même cette réconciliation. Et Jésus dit ceci, donc je termine avec ça, il dit en Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24, il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, ça peut vouloir dire que toi tu l'as offensé. Il a quelque chose contre toi, donc il est offensé par quelque chose que tu as fait. Mais ça peut aussi vouloir dire, parce que Jésus ne le précise pas, que c'est, toi tu es offensé ou que c'est lui qui est offensé. D'accord ? Donc toi tu lui as fait quelque chose, peut-être ou c'est lui qui a fait quelque chose et tu es offensé, ou c'est toi qui as fait quelque chose et lui il est offensé. Donc ça peut aller dans les deux. Mais Jésus dit, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Je crois que ce verset montre l'importance du pardon-réconciliation, quand même, quelque part. Hein. C'est-à-dire que Jésus place, quelque part, la réconciliation, au moins la démarche qui consiste à chercher la réconciliation, quelque part plus importante que le simple... plus importante que l'adoration, si j'ose dire. Vous comprenez, on voit ça, c'est très important, l'adoration est très importante. Mais il dit qu'il y a des choses qui sont des obstacles à une véritable adoration. Et particulièrement le fait de maintenir sciemment un conflit ou des relations non réglées. Il dit que ça met un obstacle dans les relations, dans l'adoration. C'est un peu ce que Jean dit quand il dit comment puis-je dire que j'aime Dieu si je n'aime pas mon frère ? Comment puis-je dire que j'aime Dieu que je ne vois pas si je n'aime pas mon frère que je vois ? Et il dit même que celui qui aime le frère, il est passé de la mort à la vie. Il lie l'amour que l'on a, donc les uns pour les autres, au salut lui-même. Et donc on peut dire que dans les actes d'adoration, Jésus montre, Ici, on ne peut pas faire fi des relations qui sont non réglées. Cela constitue un obstacle à la véritable adoration. Donc, quand on vient pour adorer et que cela vient à l'esprit, c'est comme s'il disait ici que Dieu vous ramène à l'esprit qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Attention, on vient pour participer à la Sainte Cène, il y a quelque chose qui n'est pas réglé. De mon fait, je le sais, je n'ai pas entamé de démarche pour que la chose soit réglée. Je n'ai fait aucune démarche vers le pardon et encore moins vers la réconciliation. Vers le fait de rétablir la paix, de ramener la paix dans la relation. Eh bien, il dit, je dois laisser là mon offrande et aller d'abord me réconcilier avec mon frère, puis ensuite venir et présenter mon offrande. Donc le Seigneur, il place vraiment cette exhortation juste après quoi ? Un enseignement sur l'étendue de quel commandement ? Vous vous rappelez ? Il dit, tu ne tueras point. Vous avez entendu qu'il a été dit, il dit au verset œil pour œil, dent pour dent, c'est ça je crois qu'il dit, hein ? Il dit, mais moi je vous dis, hein, il dit, tu ne tueras point. D'accord ? Je l'ai dit pas très bien, je vais juste Matthieu 5:21. Tu veux lire qu'est-ce qu'il dit 5:21, vas-y, oui.
Vous avez entendu ce qui a été dit aux anciens. Tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges.
Voilà. Et vas-y, et après.
Moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raca mérite d'être puni par les Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la chair.
Voilà, merci. Est-ce que vous pensez que si quelqu'un dit ça à son frère, qu'il a envie de le tuer, qu'il a des pensées comme cela, ou un meurtrier, quelqu'un qui a commis un meurtre, peut venir et puis dire qu'il adore Dieu le dimanche alors qu'il commet le meurtre dans la semaine? Je prends un cas gros comme ça, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous dites? Il faut qu'il a... Non, c'est pas possible. Dieu est saint, on peut pas se moquer de Dieu. L'adoration est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui crée un obstacle dans l'adoration. Alors, bien sûr, les Juifs se disent, mais moi, je ne tue personne. Et Jésus dit, oui, mais le commandement, il veut dire que si vous avez la pensée de le faire, si vous avez de la colère contre votre frère, vous l'appelez raca, vous lui dites insensé, c'est comme si vous êtes un meurtrier. Il dit, c'est au même niveau. Donc, il dit, vous êtes passible de mort. Le commandement ne concerne pas seulement les actes extérieurs, parce que les actes extérieurs, c'est qu'une question d'opportunité. C'est tout. On ne fait pas des choses parce qu'il y a des gens qui nous surveillent, il y a des gens qui ne font pas parce qu'ils ont peur, il y a des gens qui ne font pas. Mais, en fait, dans le cœur, la motivation pour le faire est là. La pensée, des fois, est là. Et il dit, quand vous avez cette pensée, vous êtes un meurtrier. C'est pour ça qu'il dit que celui qui regarde une femme, même s'il n'a pas touché, il a commis l'adultère dans son cœur. Il est passible. Et il dit après cela, alors on est d'accord, ok, si on est de ce niveau-là, c'est vrai, il faut régler les choses, on ne peut pas adorer comme ça. Et Jésus dit, si donc, il y a un donc dans le verset 23, il dit, si donc, il vient de parler de tout ça et puis il dit donc il relie cette question de réconciliation avec ce qu'il vient de dire. Il dit, si donc, tu vas à l'église et que tu donnes ton offrande et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, tu règles ça. C'est-à-dire que le problème qu'il y a, il est aussi grave que ces problèmes qu'il vient de traiter là-bas. Et il faut chercher le pardon, il faut chercher la réconciliation pour enlever ces choses qui créent un obstacle dans l'adoration que vous pouvez avoir. Donc on comprend à quel point la réconciliation est importante, hein. L'absence de recherche de réconciliation, peut créer un obstacle dans l'adoration, le service, on pourrait dire, hein, que l'on veut rendre à Dieu. Alors bien sûr, parfois on peut chercher la réconciliation avec quelqu'un qui ne veut pas la réconciliation. Okay? Mais la Bible dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Si vous avez fait tout ce qui est en votre pouvoir devant le Seigneur, ça c'est une chose. Et ce dont il est question ici, c'est celui qui refuse de le faire, sachant qu'il faut le faire, qui refuse de chercher, qui ferme son cœur, qui dit « j'ai pardonné, mais je ne veux pas de relation ». Jésus dit non, il dit « il faut Et l'apôtre Paul nous dit, non, il faut pardonner au point de chercher à rétablir la paix, à rétablir les bonnes relations les uns avec les autres, chercher à se réconcilier. Parce que c'est ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a pardonné et il nous a réconciliés avec lui-même. Et le témoignage de l'Évangile dans la vie des chrétiens, ce témoignage d'hommes et de femmes qui vivent, ce sont des réconciliés. Hein. Non seulement Dieu nous a réconciliés avec lui-même, mais il nous a réconciliés aussi les uns avec les autres. C'est ce que l'Évangile nous dit. Et cette image-là doit être transférée aussi dans les relations que nous entretenons les uns avec les autres. Voilà, je vais m'arrêter là. Nous allons prier que le Seigneur nous aide à vivre ces choses. Merci Seigneur notre Dieu pour ta parole qui nous instruit. Et je te prie que tu nous aides à toujours rechercher à vivre, non pas selon ce que nous pensons être juste, mais selon ce que ta parole nous enseigne. Et merci parce que tu nous as pardonné. Lorsque nous étions encore des pécheurs, tu nous as aimés. Nous l'avons lu, notre Dieu, tu étais en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leur offense, mais en les réconciliant avec toi. Et nous te remercions, Seigneur, de ce que tu as accompli, de ce que non seulement tu nous as préservé de la colère à venir, mais tu nous as établi dans une relation avec toi. Nous pouvons t'appeler notre Père, nous pouvons te prier, nous pouvons te parler, nous pouvons entendre ce que tu enseignes. Et nous te louons pour cela. Et aide-nous à vivre d'une manière conforme à cette réconciliation. Aide-nous à vivre de manière conforme à cela avec nos frères et sœurs. Lorsque survient un différend, eh bien, comme ta parole nous le dit, que nous sachions nous pardonner réciproquement et rechercher à rétablir la paix, à renverser l'inimitié et à retrouver une relation qui t'honore, à être animé d'un amour ardent les uns pour les autres. Nous te prions ces choses en ton nom et pour ta seule gloire. Amen.